Alors bonsoir à chacun, joie de vous retrouver toujours. Donc nous cheminons vers l'Immaculée Conception et comme parcours cette année, on a choisi de méditer, d'entrer un peu dans la signification des sacrements. Alors on a abordé le sacrement du baptême, on a abordé le sacrement de la confirmation, on a abordé le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation. Hier, vous avez eu un enseignement du Père Antoine sur le sacrement de l'ordre. Et je vous avais quand même promis de continuer à méditer sur le sacrement du mariage. Parce que j'étais pris par un élan, on avait commencé à l'aborder, mais ce n'était pas tout à fait terminé. Alors la providence est très bonne parce que continuer à méditer sur le sacrement du mariage nous amène vraiment à considérer ce que je voulais voir avec vous ce soir, comment l'Église elle-même est sacrement, et en particulier à travers la relation privilégiée qu'elle peut avoir avec les pauvres, avec les petits, avec les malades, avec les prisonniers. Donc on abordera aussi cette dimension-là de la vie de l'Église. Alors, je ne sais pas ce que vous a dit le Père Antoine, mais je peux imaginer que s'il abordait le sacrement de l'ordre, il vous a un peu parlé du diaconat. Comment est-ce que le diacre manifeste? Vous savez, ceux qui sont à l'autel, ils signifient ce qu'on est appelé à vivre. Donc, comment est-ce que le diacre manifeste notre vocation profonde à être au service? Et le service le plus important qu'on peut rendre, c'est d'être au service de notre vocation que l'on partage par ailleurs, qui est cette vocation à la sainteté. Comment est-ce que, à travers la rencontre de l'autre, à travers son visage, à travers qui il est, je contemple sa relation à Dieu, je me mets au service de cette relation à Dieu. Autour du synode, il y a eu pas mal de débats, de discussions sur la question de la place la place des femmes, la place des pauvres, la place des diacres, voire même la place des prêtres. En fait, tout le monde cherche sa place. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus dit dans l'Évangile à ce sujet-là, quand il y a deux apôtres qui viennent le voir en disant, mais... Et alors, dans un évangile, c'est les deux apôtres, et puis dans l'autre évangile, c'est la mère des deux apôtres, qui dit, mais quelle est la place que tu vas garder pour mes fils, est-ce qu'on sera bien à ta droite et puis à ta gauche, est-ce qu'on sera tout proche de toi? Et Jésus dit, il ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, la question n'est pas tant de chercher sa place, de vouloir obtenir une place, mais comme dit Jésus lui-même, à travers qui il est, au fond, on reçoit notre place, on la découvre lorsque on est au service. Au service de la vie de l'Église à travers les différentes vocations à la sainteté. Donc à la place de se regarder soi-même en disant « quelle est ma place ?» En fait, je la trouve lorsque je me détache de cette question-là pour entrer dans ce service, attitude de servir. Je peux vous dire que moi, dans ma mission quotidienne, c'est ce qui me réjouit le plus. Parce que plus on est dans une attitude de service, plus on découvre la profondeur de la réalité qui nous entoure, la profondeur des cœurs. Et plus on s'abaisse, plus on a une vision réaliste sur notre quotidien. Alors c'est évidemment vrai, dans le cadre du mariage, on avait commencé à en parler, comment est-ce que l'homme et la femme qui ont reçu le sacrement du mariage, vous vous rappelez comment on a défini ce sacrement du mariage, enfin c'est pas on, c'est l'Église a défini le sacrement du mariage. Il s'agit de s'engager non pas par rapport à ma manière d'aimer, ni même par rapport à l'amour de l'autre, mais par rapport à l'amour du Christ. Et c'est à travers cet amour de Christ que je vais aimer l'autre toute ma vie. Et donc la relation de l'homme et la femme consiste toujours plus profondément à découvrir comment l'autre est aimé de Dieu et comment est-ce que je reflète pour lui cet amour-là. Le Christ est mort et ressuscité pour cette personne. Donc comment est-ce que j'entre moi-même au cœur de la relation, dans cette mort et cette résurrection? Et si l'homme et la femme vivent cela, l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre, on arrive à ce miracle du nous, en fait. Parce qu'on découvre que celui qui nous rassemble, qui nous donne d'entrer dans cette unité de l'amour, c'est le Christ. Et l'homme et la femme deviennent alors responsables de ce qu'on peut appeler le bien commun du couple, le nous du couple. Et c'est extrêmement important. Parce que ce nous, il est source de vie. Lorsque je suis face à la limite de l'autre, lorsque je suis face à ses faiblesses, eh bien, il me faut creuser plus profondément. Et lui ou elle, la même chose, enfin, vit la même chose à mon égard, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, le mariage m'aide vraiment, au quotidien, à entrer plus encore dans le sacrement de baptême, dans ma vocation à la sainteté. Alors, ce nous, il est appelé à s'épanouir, à s'élargir. On voit comment, quand on aime l'autre de plus en plus, inévitablement, notre cœur est amené à s'élargir. Et il s'élargit aussi pour accueillir les enfants que Dieu nous donne. Et puis, on avait évoqué aussi le fait que, bah, parfois, parce que voilà, il peut y avoir des difficultés d'un point de vue médical, d'un point de vue organique. Le couple ne peut pas avoir d'enfants, mais ça ne l'empêche pas d'être fécond, d'avoir accès à cette fécondité profonde qu'est la vocation à la sainteté, et qui devient du coup, cette vocation à la sainteté devient un lieu hospitalier. Lorsqu'un couple fait grandir le bien commun, le nous, il s'ouvre au-delà de lui-même pour accueillir un enfant, mais peut-être aussi pour accueillir des frères et des sœurs en difficulté, pour accueillir des amis. C'est la raison pour laquelle on parle de la famille comme étant une église domestique. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, évidemment, l'église domestique, le terme, il est propre au christianisme, mais déjà, dans l'Ancien Testament, en fait, le couple était le reflet de l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, le reflet au sens où l'homme et la femme étaient appelés à refléter cet amour de Dieu pour son peuple. Et donc cela, évidemment, se concrétise avec énormément de force à travers le sacrement du mariage et l'hospitalité à laquelle il appelle. On ouvre notre cœur pour s'accueillir l'un l'autre, mais à travers l'accueil de l'autre et à travers ses périphéries, parce qu'on a chacun d'entre nous, on a des périphéries, des limites qu'on doit pouvoir sans cesse intégrer, qui sont certainement liées à notre histoire. C'est ce qu'on avait dit, c'est que plus l'autre m'aime, plus je suis amenée à découvrir des dimensions de mon histoire dont j'avais peut-être pas tout à fait conscience. Et c'est beau parce que l'autre est un chemin d'avenir pour moi. Et donc, à travers son regard bienveillant, l'amour qu'il me porte, il me donne d'accueillir mon histoire, mais en avançant dans l'avenir. C'est ça que l'amour est un amour qui récapitule. Et donc, dans cette récapitulation, il y a les périphéries de mon histoire, il y a les périphéries de mon humanité. Et à chaque fois que j'accueille une périphérie, j'ouvre mon cœur à accueillir les périphéries de notre société. C'est la raison pour laquelle l'Église est animée inévitablement, alors on le vit plus ou moins bien, par l'amour des pauvres et des petits. Parce qu'il nous donne non seulement de découvrir nos périphéries intérieures, mais il nous donne de découvrir à quel point nous partageons une humanité commune, en fait. La souffrance de cette personne, je ne peux pas rester indemne à cette souffrance. Elle est aussi la mienne, en fait. Nous sommes frères et sœurs en humanité. Donc, vous voyez comment la vie du couple, la vie de la famille, est appelée à s'élargir par rapport à toutes les dimensions humaines et sociétales. Je me rappelle de ce professeur de philosophie que j'ai connu à Rome, et lors de son premier cours, il nous dit « Vous savez, quand je vous enseigne la philosophie, je vous parle de mon épouse. » Alors, il ne nous a jamais raconté quoi que ce soit de son épouse. Mais en fait, ce qu'il voulait nous dire, c'est qu'en enseignant cette matière qu'il aimait beaucoup, qui est la philosophie, il l'enseignait en tant qu'il était animé par l'amour de son épouse. Et donc, inévitablement, à travers sa manière d'être, c'était évidemment le professeur de philosophie qui nous enseignait, mais pas que, c'était l'époux d'une telle. Et donc, comment est-ce que dans notre quotidien, on n'est pas simplement, vous savez, l'infirmière qui fait son travail ou la gardienne d'immeuble, etc. On a un nom, on a des alliances dans nos vies. Et comment est-ce que ces alliances animent le quotidien de notre existence, hein? Comment est-ce que un chef d'entreprise responsable du bien commun de son entreprise a un rapport à ce bien commun de son entreprise précisément parce qu'il est attentif au bien commun de son couple et de sa famille. Au fond, moi je vais vous dire, il n'y a qu'un seul bien commun, c'est le don de la vie. Il y a un seul bien qui nous est commun à tous, on est tous très différents. Il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est le fait que nous ayons reçu la vie de Dieu. Et pour les chrétiens, dans l'Église, il y a quelque chose encore de plus profond qui nous rassemble, c'est le fait que le Christ est mort et ressuscité pour nous et que nous le confessons. Mais le Christ est mort et ressuscité aussi pour toute l'humanité, hein, pour ce pauvre qui me rappelle à quel point, mais comment est-ce que moi, qui fais partie de l'Église, j'entre pour lui, je deviens pour lui témoin de cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection. Et c'est quelque chose de très concret. Évidemment, si je vais lui parler de la mort et de la résurrection de Jésus, peut-être que ça ne va pas lui parler tout de suite. En revanche, si je vais partager un moment avec lui, un café avec lui, si je lui ouvre un peu mon cœur, et rien que le regard qu'on lui offre, on peut regarder quelqu'un de façon... c'est le pauvre là, à l'entrée de l'église, bon ben je vois très bien qui il est, et puis c'est le pauvre, mais non, ce pauvre il a un prénom. Et comment est-ce que ce qu'il est, la personne qu'il est importante pour moi, parce que Jésus est mort et ressuscité pour lui. Donc quand on dit que le sacrement du mariage anime la famille, anime la société, c'est aussi pour nous rappeler que, quelle que soit notre vocation, nous participons à ce sacrement qu'est l'Église, hein, qui est une vie de communion, et qui nous rappelle qu'on n'est pas appelé à être des communautaristes. Il ne s'agit pas d'être bien ensemble, en fait. Ça veut dire qu'on se renferme sur nous-mêmes. On est bien ensemble parce qu'on a les mêmes critères, etc. Non, le bien de l'Église, il est appelé à se diffuser. Et ce bien-là, il est appelé sans cesse à être dérangé. Sans cesse, on est amené à être remis en question. Tous les jours, dans ma mission au Collège des Bernardins, à travers l'enseignement, eh bien, il y a les étudiants, vous savez, qui sont très doués, qui ont beaucoup de facilité. Donc, on aime les accompagner parce que c'est assez simple. Et puis, inévitablement, il y a les étudiants qui ont plus de difficultés parce qu'ils viennent d'autres cultures, d'autres pays, etc. Plus, alors maintenant, ça fait maintenant 15 ans que j'exerce cette mission, et je me dis, mais la vraie joie, en fait, elle est là. Elle est auprès de ces étudiants qui nous apportent bien plus que ce qu'on avait imaginé. Les autres étudiants, on a une connivence, parce que culturellement, on partage la même langue, on a les mêmes repères, donc ça roule. Donc ça va, c'est assez simple, c'est un peu un enfantement sans douleur. Oui, mais les autres qui sont là pour parfois éprouver notre patience, éprouver, et en même temps, c'est eux, au final, qui nous enfantent. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de dire. C'est que c'est pas... Évidemment, l'Église nous enfante à travers ses sacrements, c'est sûr, mais ceux qui nous enfantent, peut-être de façon toute particulière, à la suite de Jésus, ce sont les pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du sacrement du pauvre. Pourquoi est-ce qu'il m'enfante? Parce que il me donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toucher mes périphéries et de croire que plus profondément que ces périphéries, il y a une vie plus profonde que l'on peut partager ensemble. Et donc, il nous donne d'entrer dans la profondeur de notre baptême. Et donc, notre table sans cesse est appelée à s'élargir. Notre table familiale, notre table eucharistique, il est bon que les portes soient ouvertes. Alors quand je parle de portes ouvertes, on ne peut pas ne pas penser ce soir à l'ouverture des portes de notre cathédrale. L'Église est appelée à avoir des portes ouvertes. Et comme vous le savez sans doute, nous entrons dans une année jubilaire. Le pape a rédigé une bulle pour nous introduire, une bulle ça veut dire une note si vous voulez, pour nous introduire à cette année jubilaire. Alors c'est extrêmement beau, Parce que alors, il dit ce qui va se passer à Rome, il dit que tout le monde est attendu à Rome, vous pouvez passer la porte de Saint-Pierre, la porte du Latran, la porte de ces grandes basiliques et la cathédrale du pape au Latran, hein, vous pouvez passer ces portes. Et puis à un moment donné, il change de paragraphe et il dit, je vais aussi ouvrir des portes, je veux qu'il y ait des portes qu'on ouvre dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Et il dit, en fait, la vraie porte, c'est peut-être là. Pourquoi ? Parce que c'est pas tant nous qui ouvrons les portes. Ce sont ces petits et ces pauvres qui nous ouvrent les portes, qui nous donnent de découvrir ce qu'est le royaume des cieux, la profondeur de l'amour de Jésus qui est mort et ressuscité pour cette personne. Donc dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Il est important que l'Église... et l'Église, c'est chacune de nos âmes, puisse manifester cela. Aujourd'hui, on parle beaucoup, évidemment, de la beauté de la cathédrale Notre-Dame. Chacun en aura certainement, à un moment donné, l'occasion d'aller la voir. Mais je peux vous dire une chose, c'est que cette beauté-là, elle est juste, certainement en tout cas, en deçà de la beauté de l'âme humaine. La beauté de l'âme humaine, imaginez que Dieu est mort et ressuscité pour l'homme en fait. Et comment est-ce qu'il regardait l'âme humaine ? Comment est-ce qu'il percevait votre personne pour vous aimer jusqu'à ce point ? Et comment votre âme se laisse sans cesse embellir par cet amour ? Donc on a reçu un trésor qui est extraordinaire et dans un monde où... Si on l'aborde un peu de façon réaliste, on risque quand même d'être de plus en plus déstabilisé, on le voit dans notre pays, il risque quand même d'y avoir de plus en plus de pauvres, de plus en plus de prisonniers, de plus en plus de malades. On voit comment le système de santé est très 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 fragilisé. Et donc comment nous, chrétiens, on ne déserte pas ces lieux-là. Et au contraire, la question c'est pas simplement de ne pas les déserter, mais comment... Chacun d'entre nous, à travers sa vocation au mariage, à travers sa vocation de consacrer, à travers sa vocation baptismale, comment est-ce que on traverse ces portes de l'humanité ? Comment est-ce qu'on découvre que chacune de ces portes, la prison, l'hôpital, les écoles, chacune de ces portes nous donne d'entrer dans le royaume des cieux ? L'Église, elle n'est pas amenée à... Vous voyez, alors évidemment, il est important qu'on se rassemble les dimanches pour se ressourcer. Mais ce ressourcement, il n'a qu'un seul objectif, c'est d'aller au-delà. Votre vocation n'est pas simplement de servir une paroisse. Notre vocation à tous, c'est d'apporter la bonne nouvelle dans le monde dans lequel nous sommes. Et chacun de nous, on habite un monde, on habite un quartier. On va chez le boulanger, chez la boulangère, chercher du pain. Comment est-ce qu'à travers ces gestes tout simples, on est témoin de ce royaume des cieux. Alors, il me reste encore un peu de temps. Donc là, on a parlé des périphéries. Le père Jean-Marie Hénault, qui est un jésuite, disait à quel point les pauvres nous enseignent les conseils évangéliques. Est-ce que vous connaissez les conseils évangéliques ? Ce sont les conseils de l'évangile que tout chrétien est amené à vivre. Alors il y en a qui le vivent de façon, ou qui décident de le vivre de façon plus radicale que d'autres, à travers une vie religieuse ou que sais-je. Mais vous savez, c'est la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Et il dit, à chaque fois que je vois un pauvre, je me rappelle que ma pauvreté évangélique est appelée à s'approfondir. Parce que si lui est dans le manque, c'est peut-être parce que moi je suis dans l'excès. Et donc en fait, de ce point de vue-là, le pauvre est maître et me donne de découvrir la vraie mesure d'une pauvreté qui peut être partagée. Et il dit la même chose pour les personnes qui reflètent d'autres pauvretés. Il dit les sans-amour, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être aimés et qui en souffrent profondément. Eh bien, il nous rappelle à quel point on est appelé à travers nos relations sans cesse, à s'enraciner dans l'amour de Dieu pour partager cet amour. De même pour les humiliés, les personnes qui sont humiliées par le poids de la société, pour plein de raisons. Comment est-ce qu'il nous donne d'entrer dans cette humilité de l'obéissance, d'une écoute plus profonde? Donc vous voyez comment, à travers ces personnes qui sont en souffrance, au fond, c'est Jésus qui nous éduque. C'est Jésus qui vient et qui nous donne d'être de plus en plus pauvres, de plus en plus chastes et de plus en plus obéissants. Ces trois conseils nous donnent, à mon sens, d'entrer dans ce qu'on appelle la liberté chrétienne. La liberté chrétienne. Alors vous savez qu'on aura encore un temps qu'on va partager ensemble demain, hein, et qui se portera précisément sur qu'est-ce que la liberté chrétienne. On a vu les sacrements, on a vu ce sacrement qu'est l'Église. Eh bien, à quoi cela sert-il au fond, sinon à nous libérer en profondeur? Le sacrement du pauvre vient nous libérer en profondeur. Il vient nous donner d'être plus en plus nous-mêmes pour que nous puissions agir de plus en plus en esprit et en vérité, pour que nous puissions parler de plus en plus en esprit et en vérité. Donc demain, on abordera un peu en quoi consiste cette liberté chrétienne au quotidien. Je crois qu'il faut que je m'arrête là parce qu'il va y avoir la messe. Oui. Ah, la sœur me dit que j'ai encore 5 minutes. Alors peut-être que un élément que l'on n'a pas forcément tout à fait abordé dans le cadre, on a beaucoup parlé du couple, on a parlé de la famille, mais évidemment c'est le rapport aux générations suivantes. Quand les enfants arrivent, alors ils nous ouvrent à un avenir parce que c'est une nouvelle vie, et chaque nouvelle vie est un lieu qui nous ouvre à l'avenir. Et donc il y a évidemment, à travers ces enfants qui nous ouvrent à l'avenir, un enjeu extrêmement grand, c'est de les préparer aussi à l'avenir. Je suis sûre que ceux qui sont déjà un peu plus âgés ou qui ont des enfants qui grandissent se disent « Ouh là là, dans quel monde est-ce qu'il va vivre ? Dans quelle société est-ce qu'on lui laisse en fait ?» Et donc il y a là une vraie question, un vrai défi face auquel on est. Et je pense que la plus belle attitude par rapport à cela, c'est de leur faire confiance. Leur faire confiance et leur, à travers la confiance, leur transmettre votre sagesse. Ça veut dire les valeurs que vous avez découvertes à travers votre vie. Après, il est très très important, parce qu'ils ne feront pas de la même manière que vous, qu'ils puissent en faire leur miel en fait. Parce que les défis seront nouveaux. Et je suis très impressionnée de voir des jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes défis que moi j'avais. Et donc qui se disent aujourd'hui, mais quel est le sens en fait? Quel est le sens de ce que je fais? Et donc ils partent, ils vont vivre avec les pauvres, ils s'engagent dans l'écologie, etc. Ils sont dans une urgence de sens qui nous dit à quel point, ils nous disent quelque chose de ce point de vue-là. Ils nous disent à quel point ce sens qu'ils recherchent, on est nous aussi amenés à le redécouvrir sans cesse. Alors c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les petits-enfants. Et donc il est important, et je pense qu'on peut le prendre pour nous aussi, par rapport à nos parents, par rapport peut-être encore à nos grands-parents, de se dire, mais comment est-ce qu'on recueille leur sagesse? Comment est-ce que ce ne sont pas simplement les personnes âgées dont il faut s'occuper? Comment est-ce qu'on recueille leur sagesse? Et leur sagesse, parfois, elle se traduit de façon dont on n'avait pas prévu. Quand il y a la maladie de Parkinson, quand il y a la maladie d'Alzheimer, vous savez, les parents vieillissants qui peuvent être marqués par cela. Et j'ai déjà entendu des personnes qui me disent, mais maintenant c'est un peu moi qui deviens parent de mon père ou de ma mère. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je crois profondément qu'à travers ces épreuves, un parent, des parents, enfantent jusqu'au bout. Qu'en fait, peut-être que quand vous allez les visiter, ils ne vous reconnaissent pas. Ou peut-être que, effectivement, en fin de vie, vous dites, mais qu'est-ce que cette personne qui fut mon père et ma mère, dont j'étais si fière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, elle est en train de vivre peut-être ce qu'elle a de vivre de plus profond et de plus important, qui est d'offrir sa vie à Dieu au plus secret de son existence. Comment est-ce que plus profondément que la maladie, plus profondément que l'épreuve, je crois qu'il y a une dimension que l'être humain préserve toujours à l'intérieur de lui-même, c'est de donner sa vie. Et donc, dans la manière dont on vit la maladie, l'épreuve, la mort, il y a un héritage qu'on laisse. Alors ici, je ne parle pas de l'héritage matériel qui peut être très bénéfique, mais plus profondément. Comment est-ce que j'aborde ma vieillesse? Comment est-ce que j'aborde ma fin de vie? Comment est-ce que, à travers ma vieillesse et ma fin de vie, j'ouvre la génération qui est amenée à affronter des défis, comme on l'a dit, à une espérance extrêmement grande? Je crois que les personnes âgées, dans leur manière, ou les personnes malades, dans leur manière de se situer par rapport à la vie, dans leur espérance, enfantent réellement leurs enfants, leurs petits-enfants, par rapport aux défis qu'ils auront à affronter. Donc, chaque membre de la famille, même s'il est affaibli, même s'il est blessé, etc., garde, et c'est très important que ce soit ainsi, une mission unique, un rôle unique. Vous savez, c'est le professeur Lejeune qui disait, on mesure la valeur d'une société à la manière dont le plus petit est pris en charge. Je crois que c'est vrai pour nos familles et pour nos communautés. Comment est-ce que nos familles, nos communautés, comment est-ce qu'on prend le plus petit, comment est-ce qu'on prend soin de celui qui en a besoin, et comment est-ce qu'on... Alors, le prendre soin, c'est pas simplement, vous savez, souvent quand on prend soin, c'est une relation dissymétrique. Celui qui donne le soin devient comme je vous dis, le parent de l'autre. Or, en fait, comment est-ce qu'en prenant soin, je continue à honorer mon père et ma mère? Comment est-ce qu'en prenant soin, je recueille ce qu'il me donne au cœur de son existence et je l'encourage à vivre ce qu'il a à vivre? Donc, l'accompagnement de ce point de vue-là est extrêmement précieux. On ne perd jamais son temps en le donnant. Et où est-ce qu'on le donne vraiment gratuitement? C'est probablement pas quand on joue à la bourse, enfin peut-être, mais vraisemblablement quand on est là auprès de personnes, peut-être qu'ils ne nous reconnaissent plus, peut-être qu'on est voilà, et voilà, quand on donne son temps auprès des membres les plus fragiles de nos familles, de nos communautés, parce que c'est eux qui nous engendrent à la vie. Je vais terminer par là. Vous savez, Jean-Paul II, quand il a été élu pape, vous imaginez le type d'élection qui vous donne un vertige intérieur infini. À un moment donné, il parle de cette élection et il dit « La première pensée qui m'est venue, ce sont ces malades, ces pauvres que j'ai rencontrés. » Et il dit « C'est eux qui m'ont permis de dire oui. » Et en fait, en disant ça, ce qu'il nous disait, il dit « Mais en fait, j'ai pu dire oui grâce à leur oui à eux. » Et donc il y a des oui qui s'engendrent comme ça, mutuellement. Comment est-ce que, quand je suis découragée dans ma mission, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, par rapport à mon mariage, par rapport à ma famille, comment est-ce que le petit oui que j'arrive à dire, en fait, et qui reste caché bien souvent, est un lieu d'engendrement pour l'Église? C'est un grand mystère. C'est le mystère de ce qu'on appelle l'église mystique. Vous savez que vous êtes membre de cette église qui garde une part cachée et qu'au fond, ce qu'on appelle l'église hiérarchique, la partie institutionnelle un peu visible, en fait, elle existe. Pourquoi elle existe? Cette partie plus institutionnelle, plus hiérarchique, pour être au service de cette église mystique. Il ne faut pas penser l'église comme on pense dans l'entreprise en termes pyramidal. C'est le contraire. C'est que le plus grand devient le plus petit. Enfin, le pape est le serviteur des évêques. Les évêques sont les serviteurs des prêtres. Les prêtres sont et tous voilà. Et c'est ce service dont je parlais au tout début de mon intervention qui fait que on ne cesse de recueillir la vie de nos frères et sœurs pour l'annoncer et pour la faire fructifier. Hein, soyez féconds, multipliez. Quel que soit notre état de vie, on peut vivre cette fécondité et la multiplier. Voilà, cette fois-ci, je m'arrête là. Donc, on se retrouve demain pour continuer à méditer, cette fois-ci sur la liberté chrétienne. Donc, c'est à 17h30, avant la messe.